I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis.
Nova.
Je suis terrorisée à l'idée de nuire. C'est ça qui est tordu, en fait. C'est ça, la perversité. C'est qu'on fait porter aux enfants, victimes directes ou indirectes, cette responsabilité-là. Et donc, moi, j'ai peur de nuire. J'ai peur de nuire à mon jumeau. J'ai peur de nuire à mes enfants. J'ai peur de nuire à mes cousins. J'ai peur de nuire... Voilà, bon. Et c'est là où, parfois, je me tranquillise. C'est que je me dis, bah, d'accord, Camille, mais alors réfléchis au jeu, puisque c'est ce que tu as essayé de chercher et de trouver. Et est-ce que tu vas te nuire à toi-même ? Ben non.
Elle est l'un des nœuds de cette corde immense à laquelle s'agrippe depuis quelques années une moitié du monde. Il y a eu Vanessa Springora, et Adèle Haenel, et Sarah Abitbol, et quelques autres. Leur récit trace au sol un territoire protégé, dans lequel peuvent entrer les victimes, dans lequel elles peuvent être comprises et entendues. Camille Kouchner a publié en janvier « La Familia Grande », et depuis, le mouvement MeToo Inceste a émergé, les prises de parole politiques se sont multipliées, et ont donné naissance à une proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Dans La Familia Grande, Camille Kouchner raconte l'inceste subi par son frère jumeau, Victor, et commis par leur beau-père. Mais elle raconte aussi, surtout, son lien à sa mère, Evelyne Pizier, brillante professeure de droit public et figure féministe. Elle raconte l'enfermement de toute une famille prise dans une nasse de silence. Elle y raconte son silence à elle, sa parole à elle, coincée entre celle des autres. Je lui ai demandé ce que cette prise de parole avait déclenché. Mais d'abord, comment elle avait réussi à parler d'elle, à trouver sa place dans le récit. Comment elle s'était autorisée à parler. Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Fracas.
Bah, déjà, j'ai fait une analyse qui m'a beaucoup aidée à essayer de construire ce jeu, J.E., à construire ma conception des choses. Et puis, surtout, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois s'accepter soi et accepter qu'on a vécu ces choses-là, même si on n'a pas directement vécu des abus sexuels, on a quand même vécu cette vie-là. Donc déjà, cette première chose, c'est de réussir à accepter de dire « je » dans ce cadre-là. Et par ailleurs, une autre question qui se pose, qui est quand on est témoin de ce genre d'abus, est-ce qu'il faut attendre l'autorisation de la victime? Est-ce qu'il faut attendre... ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut attendre... Enfin, ou plutôt, ce serait renverser les choses. Est-ce qu'il faut tout faire reposer sur la victime? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut considérer qu'il n'y a que la victime qui a le droit de dire « j'ai mal » Ou est-ce que, en tant qu'adulte responsable, et aujourd'hui je suis adulte, j'ai le droit, moi, de dire cette société-là qui laisserait faire ce genre de choses, ces infractions-là, est-ce que j'ai le droit d'y résister, ou est-ce que, puisque je ne suis pas victime directe, je dois laisser faire? Ça, c'est une autre question. Et donc j'ai essayé de résoudre ces deux questions-là. D'abord, la question de ai-je traversé tous ces événements? La réponse était oui. Et ensuite, l'autre question, est-ce que je veux de ce monde-là où on laisse des gens se faire agresser et on reste des témoins passifs? Non, je veux pas. Donc voilà, j'ai fini par trouver ma place là-dedans. J'ai essayé de résoudre ce double problème.
Et du coup, ce silence que vous aviez apporté, il y avait une double injonction un peu particulière à se taire dans votre cas. Il y avait le silence qui était intimé par l'agresseur, et vous racontez comment il vous disait à votre frère Victor, donc à la victime des agressions sexuelles, mais aussi à vous, votre mère est fragile en ce moment, il ne faut pas l'embêter avec ce genre de choses, etc. Donc il y a le silence imposé par le beau-père, mais il y a aussi le silence que votre frère vous demande de tenir.
Oui, tout à fait. Alors j'ai fini par comprendre, et c'est peut-être pour ça que j'arrive à m'en dégager un peu aujourd'hui, que c'est pas vraiment une intention de la part de mon frère. C'est-à-dire que c'est pas un secret imposé par lui. C'est que, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire auparavant. Maintenant, j'ai compris que moi, je recevais l'emprise de la même manière que lui. C'est-à-dire que j'étais complètement victime de l'emprise de mes parents sur nous, sur lui, puis sur moi. Et donc, si mon frère m'a parlé, c'est peut-être aussi... alors peut-être que lui, il voulait que les choses... il était terrorisé, il avait peur qu'on fasse du mal à notre mère, puisque c'était ce qui nous était dit, donc voilà. Mais peut-être que s'il m'a parlé, c'est parce qu'il sentait aussi que j'étais sous emprise et que je ne parlerais pas. On était dans les mailles d'un filet, en réalité. Et ce qui est très difficile à voir, c'est que... enfin, à comprendre plutôt, c'est qu'on croit que c'est l'amour, ça. On croit que c'est parce qu'on s'aime tous, alors il ne faut pas se nuire. Mais en réalité, c'est de l'emprise, et c'est de l'emprise archi-perverse, parce que ça nous nuit absolument de nous taire. Mais pour s'en dégager, il faut des années et des années. Moi, je n'ai pas l'impression, aujourd'hui, en écrivant ce livre, que je romps un secret que j'avais avec mon frère. D'abord parce que mon frère a parlé. Il a parlé à ma mère, il a parlé à mon père, il a parlé à chaque fois que ça a été important de parler, il l'a fait. Donc, il est sorti du silence. Donc, en écrivant le livre que j'écris, je ne romps pas un pacte que j'aurai avec lui. C'est pas ça, moi. Ce qui m'a imposé le silence, c'est mon beau-père. C'est pas du tout mon frère. Après, lui, il a été, je parle de mon frère quand je dis lui, il a été dans cette emprise beaucoup, et donc c'est douloureux pour lui d'être exposé comme ça. Et par ailleurs, on est dans un contexte qui fait qu'on est très exposé. Donc passer du silence à beaucoup, beaucoup de bruit, forcément, ça fait très peur. Ça fait très peur parce que on a peur de nuire, en fait. C'est ça qui est paradoxal, parce qu'on pourrait se draper dans voilà, notre assurance, on dit, bah voilà, la vérité, c'est la vérité, le mal, c'est le mal, voilà, il faut dénoncer les choses. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça, ça fait très peur de dénoncer les choses, parce qu'on dénonce des gens qu'on a aimés beaucoup, et des gens en qui on avait confiance, et puis surtout des gens qui nous ont aidés à construire le monde, qui nous ont voilà, transmis des valeurs, et qui nous ont donné... puisqu'on parle de la parole, qui nous ont donné les mots pour concevoir le monde. Et donc, on utilise ces propres mots-là pour leur dire maintenant stop. Et ça, c'est quand même pas facile à faire du tout, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour vous de grandir dans ce silence et d'être victime collatérale, si on peut le dire comme ça, de ce climat-là et de ces agressions-là ?
Bah, la conséquence, c'est qu'on n'a plus confiance en rien. Si on ne peut pas avoir confiance en ses parents, c'est compliqué. Alors, il y a plein de gens hein, qui sont victimes de violences de leurs parents et qui trouvent leur voie. Moi, ça a beaucoup entamé la confiance que j'avais en moi, même si au fond de moi, j'ai toujours eu l'espoir que le monde était meilleur que celui qu'on me présentait et qu'on pouvait agir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'écris, c'est que je pense qu'on peut quand même un peu agir sur le monde. Mais quand on est petit, ça veut dire que dès qu'on a un malheur, dès qu'on a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas vers les parents qu'on se retourne, quoi. Qu'on se tourne en tout cas. Voilà, on a confiance en personne, et moi j'avais confiance qu'en mon jumeau. Donc voilà, on a grandi tous les deux en fait, parce qu'on était tous les deux dans cette espèce de tempête. Le seul foyer, d'une certaine manière, c'était mon frère et moi.
Ça veut dire que ça isole aussi beaucoup. Moi, ça me frappe dans le livre quand vous parlez du Club des Cinq, de ses amis que vous vous êtes fait quelques temps après que votre frère vous avait expliqué ce dont il avait été victime, et vous passez tout votre temps avec ces autres ados avec qui vous riez beaucoup, etc., avec qui vous partagez énormément de choses, mais pas ça. Ça, personne ne le sait à part votre frère.
Oui, oui, oui. Et donc, ça isole, même quand on est au plus proche des gens qu'on essaye d'avoir pour amis. Et en plus, à cette époque-là, moi, d'une certaine manière, je crois, hein, mais c'est compliqué, je crois que j'ai abandonné mon frère, en fait, parce qu'il m'en a parlé. Je ne sais pas si je n'ai pas eu envie de comprendre ou si j'ai trop bien compris. Ou si... Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que y a quelque chose qui s'est bloqué en moi. peut-être pour pas prendre la mesure de la réalité. Et donc, d'une certaine manière, c'était une espèce de fuite. J'ai eu ces amis, et c'était mes amis pour les qualités qu'ils avaient, hein, pas parce que j'avais besoin de fuir, et vraiment, ils sont super, et c'est toujours mes amis, et je les adore. Mais j'ai eu besoin de rompre avec mon frère à ce moment-là, d'une certaine manière, de lui dire, bon, bah écoute, moi, ciao. Voilà, et c'était pas pour l'incriminer, hein, c'était juste bon, bah c'est noté, merci, et voilà. Et je pense que voilà, c'est un de mes regrets, c'est que je l'ai abandonné à ce moment-là. Je l'ai pas aidé du tout. Et quand aujourd'hui, avec un peu de recul, je me pose la question de savoir pourquoi il m'a parlé, parce que c'est une vraie question aujourd'hui. Quand on est adolescent, on se dit, bah oui, à la vie, à la mort, bien sûr qu'il me parle. Et puis, j'étais honorée de porter son secret. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, pourquoi il m'a parlé? Est-ce qu'il attendait de moi quelque chose de spécial? Est-ce que j'étais censée, du haut de mon adolescence, réagir, faire quelque chose? On en a beaucoup parlé depuis, hein, mon frère et moi, et... Bon, en fait, on ne sait pas ni l'un ni l'autre exactement ce que l'un attendait de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que moi, les premiers mois et même la première année, peut-être un peu plus, j'ai pris la fuite. Donc, j'ai pu avoir des amis. Et après ça, je me suis beaucoup, beaucoup isolée.
Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Qu'est-ce qui fait vous penser que vous avez pu être dans la vie et puis que tout à coup, ça s'est grippé?
Je crois qu'on... Moi, j'étais très en colère. J'étais pas immédiatement en colère parce que je crois pas que j'avais pris la mesure des choses. J'ai pris la mesure des choses bien après, quand j'ai eu un beau-fils, etc. Mais j'avais une espèce de colère sourde liée au décalage qu'il y avait entre ce qu'on m'avait raconté du monde et ce qui se passait, entre les rigolades de mes parents qui étaient dans une ascension de pouvoir, de liberté, etc. Et nous qui étions mal à la maison. Et puis en plus... quand même, il y a eu cet épisode où en terminale, ma mère a décidé que mon frère vivrait plus avec nous. Et donc ça, c'est, pour moi, c'était tragique. Enfin, c'était mon jumeau. On avait toujours été à deux. Et en l'espace d'une conversation, elle m'annonçait qu'il partait et que j'allais rester là toute seule. Et pour moi, c'était... la vie commençait à devenir désagréable. Vraiment désagréable, quoi. Et puis ma mère allait pas bien en plus. Enfin bon, voilà. Donc je me suis isolée parce que j'avais l'impression que je ne pouvais parler à personne.
Et du coup, sur cette possibilité de parler ou pas, pour moi, le livre, ce qu'il raconte, c'est vraiment la contamination de toute une famille par le silence. Et donc, il y a la personne qui agresse et il y a la victime qui est agressée. Mais en réalité, c'est tout le monde autour qui est pris dans ce système de silence.
Oui, alors ça, moi, je suis absolument d'accord avec cette analyse et en même temps, je le mesure un peu moins bien dans la mesure où moi, j'ai l'impression d'être restée très, très, très seule pendant très, 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 très longtemps avant que d'autres soient mis au courant. Et donc, c'est surtout ça que je porte aujourd'hui, c'est ce silence à moi. Voilà. Après, à partir du moment où mon frère a révélé les choses à ma mère et où ma tante s'est mise à en parler à beaucoup de gens et tout ça, oui, c'était comme si tout le monde était tétanisé. C'est-à-dire que personne ne bouge. Et je crois que personne ne doute. Ce qui, dans d'autres familles, par rapport à ce qu'on m'a raconté, les témoignages qu'on peut me rapporter, est une violence supplémentaire. Parce que quand même, quand on doute de ce que vous racontez, c'est absolument atroce. Là, personne n'a douté, vraisemblablement. Puis surtout parce que certains adultes sont allés confronter mon beau-père pour lui dire « Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et mon beau-père n'a jamais nié. Mais pour autant, malgré cette vérité-là, les gens sont restés tétanisés. Et tétanisés, moi, je dis ça parce que personne n'est venu nous voir pour nous dire, ça va, qu'est-ce qu'on peut faire, ou est-ce que vous avez envie d'en parler, est-ce que... Et c'est ça la tétanie, c'est ça rester dans le silence pour moi. C'est-à-dire que j'avais pas besoin, moi, qu'on le dénonce. De toute façon, c'était déjà prescrit, de toute façon... Mais en revanche, qu'on prenne la mesure de ce qui était arrivé et qu'on puisse en parler tous ensemble, voilà, je trouve que... Et puis ça aurait fait du bien à ma mère, surtout, je pense. C'est-à-dire qu'elle se... Peut-être qu'elle a eu une responsabilité, elle, où elle se sentait si seule et si enfermée dans le silence aussi. Parce que personne n'est venu lui dire... Enfin, j'en sais rien, hein, par ailleurs, parce que ma mère, là, à partir de là, elle aussi a arrêté de me parler quand même beaucoup, mais j'imagine qu'on n'est pas venu lui dire beaucoup « je suis là et je t'aide ». En dehors de ma tante qui lui a dit « je suis là et je t'aide à partir et fais autre chose et la vie est mieux que ça », etc. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui lui aient parlé à ma mère.
Mais c'est lié d'ailleurs cette solitude et ce silence, parce que si les gens ne parlent pas, ils peuvent pas s'allier.
Exactement, mais c'est fait pour. Hein. C'est vraiment, toute façon, c'est la, voilà, c'est divisé pour mieux régner. C'était vrai avant. Là, moi, ce que je trouve magnifique, et si je peux le redire parce que je l'ai pas dit beaucoup, c'est à quel point on est unis avec mes frères. On est autour de mon jumeau, mon petit frère et mon grand frère. C'est extrêmement émouvant parce que on l'a pas toujours été. On est chacun dans nos vies, mais là, on est là, on se parle énormément. Et donc. En miroir, on peut prendre la mesure d'à quel point a pesé le silence, parce qu'on ne se parlait pas, et donc on était évidemment moins unis, ça c'est vrai.
Et ce qui me frappe aussi dans le livre, c'est aussi l'histoire de deux femmes, de votre mère et vous, prises dans un monde d'hommes, et deux femmes qui parlent, qui font des études, qui maîtrisent le droit en plus, et qui savent écouter. Votre mère, vous l'appelez à un moment donné la maman maïeutique, donc qui sont dans le dialogue. Et en fait, tous ces avantages, toutes ces capacités, tous ces privilèges que vous pouvez avoir, ça suffit encore pas à lutter contre ces enjeux de domination.
Ah oui, mais ça, c'est... exactement. Et c'est vraiment très tragique, quoi. Alors, il y a d'abord, je pense, cette espèce de distance entre le discours et les actes qui est là, pour le coup, que moi, j'essaye de réduire en écrivant ce livre, mais je pense que ma mère, elle en a quand même beaucoup souffert. Elle était dans un moment très idéologique et elle a beaucoup œuvré pour les idées et elle était magnifique là-dedans. Après, pour transformer l'essai, ça a été plus... compliqué pour elle. Et puis par ailleurs, je pense que c'est vraiment l'effet de la sidération. Enfin, alors peut-être c'est une manière d'essayer d'excuser ma mère, mais je pense qu'elle elle était un peu sidérée quand même par toute la violence qui s'était abattue sur elle dans la vie. Il n'y a pas que la violence des agressions que mon frère a subies. Elle a aussi perdu ses parents dans des conditions qui étaient hyper violentes. Et je crois que elle en pouvait plus, et j'essaye pas de justifier mon silence, hein, mais je pense que avoir une mère aussi affaiblie n'aide pas à parler. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Et moi, je voulais tout sauf lui nuire à ma mère. Et j'ai fini au bout d'un moment, mais ça m'a pris des années, par comprendre que c'était pas moi qui allais lui nuire en révélant la vérité. C'est mon beau-père qui a nui à tout le monde, mais c'est le propre de l'inceste et c'est d'inverser tout le temps les responsabilités, tout le temps. Et moi, encore aujourd'hui, hein, il peut m'arriver, alors ça, je pense que c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là, de douter de ma responsabilité, à nouveau d'inverser les choses, de me dire que c'est moi qui suis le bourreau en parlant. Il y a des moments dans la journée où je me dis, mais pourquoi je remue tout ça? Évidemment. Mais ça, en fait, c'est le discours de... Après, je me demande, mais à qui ça sert de penser comme ça? Ben, je vois bien à qui ça sert. Ça sert à la personne qui a commis les actes, certainement pas aux victimes. Donc, après, je me rassemble et je sais pourquoi je parle. Mais... le silence, il est entretenu par cette inversion des responsabilités en permanence.
Et vous pensez que votre mère, elle venait aussi d'un monde de silence, parce que vous dites dans le livre qu'elle vous a appris à détester son propre père. Il y a plusieurs pages sur ça, sur le fait qu'il y avait un silence autour de elle, son lien avec son propre père. Est-ce qu'il y a aussi une histoire de transmission du silence?
J'en suis sûre qu'il y a une histoire de transmission du silence, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est qu'il n'était pas question que mes enfants reçoivent un silence. Et je ne sais pas pourquoi, c'est très intuitif ça, mais il y a un moment où ça m'a paru insupportable de leur livrer ça. Donc voilà, après pour ce qui est des silences de ma mère, malheureusement je crois que je ne saurai jamais.
mais vous avez le sentiment que votre histoire et l'histoire que vous racontez dans le livre, elle s'inscrit, comment dire, que c'est comme le fruit sur une branche de beaucoup de branches, de toute une forêt de silence, quoi.
Ouais. Bah oui, après, je ne peux pas le nommer, j'en sais rien, mais je veux dire, ma mère, c'était encore une fois une personne merveilleuse et surtout, c'était une personne, une féministe convaincue, vraiment avec une construction intellectuelle dans chacun de ses raisonnements. Voilà. Ce qu'elle a fait à la fin de sa vie, ça va à l'encontre de tout ça. Ça met un stop absolu à tout ce qu'elle m'a transmis, tout ce qu'elle a construit intellectuellement. Elle est rentrée dans des débats sur la parité, sur la place des femmes, sur l'universel, sur etc. Tout ça, même j'étais trop jeune pour qu'elle me l'apprenne, elle me l'a appris quand même. Et à la fin de ça, elle fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle reste liée à un homme, donc soumise à un homme, alors que le pire est arrivé à son enfant. Donc, si vous voulez, il y a forcément un loup quelque part. C'est pas possible. Je veux bien qu'elle ait été sous emprise, elle aussi. Mais cette emprise-là, elle est née de quelque chose. Mais quoi, j'en sais rien. Malheureusement, je crois que je saurai jamais.
Est-ce que vous vous souvenez d'un monde et d'une époque avant le silence?
Je me souviens, bah, y a un avant et un après le suicide de ma grand-mère. Donc, parce que à partir du moment où la mère de ma mère se donne la mort, la vie bascule. Et ça aussi, il faudrait réussir à l'expliquer parce que y a évidemment plein de suicides un peu partout, malheureusement, et les choses ne se passent pas exactement comme ça. Moi, j'ai toujours cru que c'était normal. Que c'était normal de le vivre aussi mal, que ça dure pendant des années et des années, que ce soit transmis aux petits-enfants, que ce soit transmis de manière collatérale, etc., que ce soit un drame absolu, le suicide. Bien sûr que c'est un drame, mais il y a des gens qui s'en... qui s'en relèvent. Comment dire, c'est peut-être mal formulé, mais ne serait-ce que ma tante, il y a un moment où ma tante, elle a été absolument effondrée par le suicide de ses parents, mais il y a un moment où elle s'est relevée. Et elle a dit, bon, maintenant, voilà, je vais même me faire une idée de ce que c'est que ces suicides, une idée de ce que ça veut dire et une idée de ce que j'en fais. Ma mère, elle s'est jamais relevée de ça. Et donc, voilà, j'ai le souvenir du monde avant qu'elle s'écroule. Et le monde après. Et ce qui est étrange, c'est que justement dans cette construction intellectuelle, dans ces débats idéologiques autour du féminisme, etc., ça l'a jamais entamé, ma mère. C'est-à-dire que ma grand-mère a disparu et ma mère, elle a continué de plus belle à essayer de lutter pour la place des femmes dans cette société. Mais tout ça, c'était du discours. Les actes, c'était terminé après ça. C'est comme si elle avait abandonné l'espoir d'une vie... réelle, une vie sur Terre qui soit pas triste, en fait. Elle s'est laissée aller à une vie triste, je crois.
Vous décrivez un double mouvement dans la possibilité qui s'est ouverte de parler. Il y a eu la mort de votre mère. Il y a eu un mouvement sociétal au-delà de vous sur les 15 dernières années qui fait que vous avez eu entre les mains des œuvres qui vous ont amené à ces réflexions-là. Et puis, il y a eu le fait de trouver la bonne psychanalyste. Qu'est-ce qui a été le vrai déclencheur? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « maintenant, je peux, j'ai le droit »
Peut-être que inconsciemment c'est ce que je me suis dit, mais surtout non. Mais je crois que c'est vraiment la mort de ma mère, c'est-à-dire que le monde ne pouvait pas être comme ça. C'est-à-dire, je sais pas comment vous dire, ça m'a fait un effet de bon bah alors fin de l'histoire. Et puis donc il y a pas de morale à cette histoire. C'est terminé maintenant. Ma mère est morte en étant fâchée contre moi. Alors elle essayait de pas. Elle m'aimait, donc elle avait du mal à ne pas me montrer qu'elle m'aimait. Mais en attendant, elle était quand même pas très sympa avec moi vu qu'elle me tenait pour responsable du silence. Donc ça c'était difficile. Et je pense que trop c'est trop en fait. J'ai eu là c'était un surcroît d'injustice, d'amertume, et je me suis dit mais moi je ne peux pas livrer ce monde à mes enfants. Je ne veux pas que les méchants gagnent. C'est pas possible. Et c'est pas une vengeance. Hein. C'est juste que j'avais besoin de mettre du sens de mettre du sens dans le monde, dans la vie, dans ce pourquoi on se lève le matin. Et je ne peux pas mettre au monde des enfants pour que le matin, ils se lèvent pour vivre une vie où tout est sans dessus-dessous. C'est pas possible. C'est-à-dire que les mamans qu'on aime et qui vous aiment absolument, ce dont je n'ai jamais douté, meurent dans un contexte de tristesse, séparée de ses enfants. Et moi, je laisse partir la personne que j'aime le plus au monde, en dehors de mes enfants. Et... Bon, bref, parce que si jamais ils écoutent, je vais me faire engueuler. Je la laisse partir, et puis c'est la fin de l'histoire. Et donc, on aura été manipulés jusqu'au bout, y compris malgré cet amour si fort qu'on avait les uns pour les autres. Et ben, je ne peux pas m'y résoudre. Donc, voilà, je parle.
Comment vous faites pour être... Elle vient d'où la certitude absolue que vous vous aimiez autant, avec autant de douleur autour ?
Ah ben alors ça, c'est là. Voilà, c'est... heureusement, la raison n'a rien à voir avec ça, donc je ne peux pas vous l'expliquer de manière rationnelle, c'est là. Ma mère, elle m'aimait énormément, c'est sûr. Elle était... on était ses soleils, on était ses enfants, elle nous adorait, quoi. Et je pense que mes frères vous diraient la même chose. Et pourtant, ça a été vraiment difficile hein, d'avoir ce chemin de vie-là tous ensemble. Mais je pense que mes frères ne doutent pas 3 minutes de l'amour que notre mère nous portait. Elle a su faire ça. Ma mère, c'était pas une mère qui fait des enfants pour son image sociale, une mère qui fait des enfants pour pouvoir exercer son autorité, une mère qui fait des enfants. Enfin, il y a 12 000 modèles. Ma mère, c'était une maman, quoi. C'était son bonheur dans la vie, c'était d'être notre maman, en fait. C'est ça qui est fou.
Donc ça veut dire que vous vivez aussi avec la certitude qu'elle s'est privée de son plus grand bonheur en étant sous cette emprise-là.
Ah ben c'est pour ça que ouais, vous avez exactement compris ma réponse sur pourquoi vous avez écrit. C'est pour ça, c'est parce que je pense qu'elle aussi, elle a été absolument victime de tout ça. Je peux être en colère. C'est-à-dire que je peux aussi être en colère contre elle. Hein. Je ne la prends pas pour... elle n'était pas pieds et poings liés. Elle pouvait réagir. Elle pouvait ne pas laisser autant de place à son mari. Bien sûr, elle a été nulle hein, là-dessus. Je ne la décris pas comme quelqu'un qui a tout réussi. Elle a eu plein d'échecs. Mais ça n'entame absolument pas ma conviction qu'elle m'aimait. Voilà, on fait tout ce qu'on peut. Hein. Moi, j'essaye d'être une bonne mère aussi. Et puis, parfois, je ne suis pas à la hauteur. Mais ça ne dit absolument rien de l'amour que j'ai pour mes enfants. Bah, voilà. Après, il y a d'autres modèles. Hein. Y a des mères qui sont absolument nulles et qui n'aiment pas suffisamment leurs enfants. Et tout ça. Moi, ce n'est pas ce modèle-là que j'ai eu comme mère. Mais ça rend les choses encore plus compliquées à démêler, d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça qu'on a mis autant de temps.
Et alors du coup, le démêlage, il s'est fait dans l'écriture, j'imagine, ou en tout cas, un bout du démêlage s'est fait dans l'écriture. Dans quel état vous étiez, vous passiez par quoi comme réflexion ?
J'ai commencé à écrire après la mort de ma mère, et donc au début, j'étais dans la colère. En fait, je suis passée un peu par plusieurs états. J'étais dans la colère parce que j'avais une vraie frustration de « bon, bah tout ça pour ça ». Alors, donc, ok, moi, je me suis tue pendant des années pour pouvoir préserver ma mère d'une certaine manière, et puis elle meurt fâchée. Et c'est vraiment... Alors là, c'est pas juste, quoi. Bon, donc j'étais un peu comme ça. Puis après, je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de parler d'une mère qui est une mère décrite par d'autres, mais pas par moi-même. Je vais essayer de la décrire moi, avec mon regard de petite fille, sa fille. Et là, petit à petit, j'ai commencé à me retrouver dans son amour, à me retrouver dans nos liens, et à accepter, malgré la colère que j'avais contre elle, voilà, tout ce lien magnifique qu'elle a créé avec mes frères et moi. Donc, y a eu ça. Et donc, résultat, ça a fait venir quand même beaucoup de tristesse et de nostalgie et d'avoir l'impression que j'avais, qu'on était passé à côté de pas mal de choses. J'avais lu, alors c'est pas du tout, le parallèle est pas le même, mais n'empêche que j'ai plusieurs lectures. Donc c'est comme ça, j'avais lu Didier Ribon, Retour à Reims, qui est un texte que j'adore absolument. Et il a une phrase comme ça, j'espère ne pas l'écorcher, mais un bout de phrase, en plus je l'ai coupé, mais ça m'a... Il m'a dit, voilà, c'est pas à moi qu'il a dit, mais quand je l'ai lu, j'ai l'impression qu'il me le disait à moi. C'est vraiment ça. Il parlait de son père et de retourner voir son père. Et il parlait de la mélancolie liée aux possibilités que l'on a écartées. Et ben voilà, le livre que j'ai fait, moi, c'est exactement ce bout de phrase-là. C'est raconter la mélancolie liées aux possibilités que l'on a écartées. Et donc, on n'est pas passif là-dedans. Ce sont des possibilités que l'on a écartées. C'est une possibilité que ma mère a écartée. Et ça a créé une mélancolie immense. Et donc, au fur et à mesure de l'écriture, voilà, je me suis dit, je voudrais rester... S'il y a un sentiment principal à restituer, c'est celui-là. C'est pas la colère, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'inceste, etc. Il y a de l'inceste dans mon livre, mais je ne crois pas que ce soit un livre de colère. C'est vraiment cette mélancolie liée aux possibilités qu'on a écartées. Pourquoi on a écarté ces possibilités de se parler, de s'aimer, d'essayer de s'excuser, de reconstruire à partir de quelque chose que... Moi, j'ai l'impression que tout le monde sait dramatique. Alors, ce n'est pas la peine de tergiverser pendant des plombes. Je n'arrive pas à concevoir que ma mère pouvait pas savoir que c'était dramatique. Bien sûr que... Enfin bon, peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe. Mais elle a écarté cette possibilité et moi, ça me laisse beaucoup de mélancolie.
Et comment ça s'est traduit concrètement dans l'écriture ? Vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé par faire quelque chose d'un peu chronologique et ensuite de remettre du jeu à l'intérieur de tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit... J'ai trouvé ma voix à moi, je sais comment exister dans ce texte. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ah là, je sens que j'ai le droit d'écrire et que du coup, j'ai fait un premier chemin ?»
Alors, j'ai essayé de ne pas me poser la question de savoir si j'avais le droit, sinon ça allait vraiment m'inhiber totalement. Le droit par rapport à la mémoire de ma mère, le droit par rapport à mon frère jumeau, le droit par rapport à mon grand frère. Si je me posais la question de ça, c'était foutu. Donc, j'ai décidé que j'écrivais pour moi. Et ça, voilà. Et puis après, en ce qui concerne le fait de trouver le « je », ce qu'il a fallu que j'admette, c'est qu'il y avait plusieurs « je ». En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, j'ai essayé d'être cohérente. Parce que moi, j'ai un petit truc comme ça. Il faut être cohérent dans le discours. Bon, c'est sans doute parce que j'ai une espèce de travers juridique. Mais j'ai essayé d'être cohérente. Et puis, en fait, j'ai accepté que je n'étais pas cohérente. Et que mon regard de petite fille sur ma mère, par exemple, ou sur mon beau-père, n'était pas le même que celui que je portais aujourd'hui sur eux. Et que mon regard sur mon père hier... n'est pas le même que celui que je porte aujourd'hui sur lui. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs parties dans le livre, c'est que en fait il y a plusieurs regards, et donc c'est plusieurs jeux, c'est plusieurs... Et j'accepte ces contradictions, et je pense que quand on a le chemin que moi j'ai eu, il faut accepter les contradictions, parce que sinon en fait on devient fou à force de rechercher une unicité. L'unicité, elle est là, elle est devant vous, vous la voyez, c'est moi. Mais après, moi, j'ai des sentiments contradictoires et violents en permanence. Et ça, pour le coup, c'est lié à l'inceste, parce que c'est une trahison absolue, l'inceste, de la confiance. Mais c'est aussi lié au suicide. Hein. C'est aussi une sacrée trahison, le suicide, en tout cas de mon point de vue. Donc, j'ai des sentiments hyper violents, hyper contradictoires. À la fois, je les adore tous et à la fois, je les déteste tous. Et la petite fille qui les trouvait grandioses, aujourd'hui, les trouve médiocres. La petite fille qui les trouvait médiocres hier, les trouve aujourd'hui grandioses. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a plusieurs jeux, en fait, dans ce livre. Et quand j'ai trouvé les quatre parties, là, j'ai assumé totalement le texte. Voilà.
Et du coup, en tissant ces parties entre elles, est-ce qu'il y a un effet... De guérison, un peu comme on pourrait recoudre une plaie, de tout tisser ensemble
Oui. J'espère en tout cas. Après, je sais que ce sera lent. Mais moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc voilà, et j'adore que les choses soient jolies. Et donc, je trouve ça joli d'avoir réussi à arrêter de me flageller. Quoi. Ne serait-ce que ça, je trouve que c'est une vraie réussite. Moi, je suis contente.
Et alors, à quel moment est-ce que c'est dans l'écriture? Est-ce que c'est à la fin de l'écriture ou à la parution du livre ou pas encore? Vous avez eu le sentiment de briser le silence?
Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je n'ai pas l'impression d'être sortie du silence. C'est-à-dire que j'ai l'impression de le refaire à chaque fois. J'ai l'impression que c'est difficile de la même manière à chaque fois. À l'oral, c'est beaucoup plus dur qu'à l'écrit.
Là, quand vous parlez, ça reste encore une transgression?
Ah bah oui. Bah oui, bien sûr que c'est une transgression. Et j'aurais l'impression d'être sortie du silence quand j'aurais été complètement entendue. Et complètement entendue, c'est pas encore le cas, je pense. Parce que d'abord, il y a ce qui se passe dans la sphère privée. Par entendue, il faut entendre ou comprendre comprise, hein, ce qui n'est pas encore totalement le cas, je trouve. Mais ça, c'est dans ma sphère personnelle. Voilà. Et par ailleurs, je trouve que ce livre a déclenché quelque chose, un mouvement tellement d'une ampleur tellement importante que maintenant, il faut être à la hauteur de ça. Et oui, il y a des gens qui parlent, mais pour l'instant, ils ne sont pas totalement entendus. On ne peut pas dire ça.
Ça voudrait dire quoi, être entendu?
En ce qui me concerne, moi? En ce qui me concerne, moi, bon, c'est un peu... j'aurais l'impression de forcer les choses en le disant trop publiquement. En ce qui me concerne, moi, c'est pas très important. Mais en ce qui concerne... Non, mais je saurais... en fait, ce que je recherche, moi, c'est de l'apaisement. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, l'apaisement, c'est enfin, quand même, déjà... Ouais, là, je suis pas... Mais quand je vous parlais tout à l'heure de cette espèce d'union qu'on a avec mon petit frère, mon grand frère et tout, c'est déjà tellement... Franchement, ça fait un bien fou, quoi. Et j'avais un copain, là, qui me racontait que lui, il lui était arrivé la même chose qu'à mon frère et tout ça, et que ses sœurs ne l'entendaient pas. Et bon, je vois la chance que j'ai, moi, déjà, de pouvoir être... dans cette union-là. Bon, mais moi, voilà, c'est moins important. Après, tout le mouvement MeToo inceste et tout ça, je pense qu'il y a des gens qui parlent, pour qui c'est très très dur de parler, qui parlent qu'à demi aussi, qui disent pas tout, parce que faut trouver les mots. Hein. Et avant de trouver les mots, faut comprendre ce qui vous est arrivé. Enfin, tout ça est un processus immense. Et je pense que pour qu'elles aient l'impression de pouvoir être entendues, il faut leur donner beaucoup plus de moyens de l'être. Alors, il y a l'aspect juridique des choses, et puis il y a l'aspect économique des choses. Moi, je vais essayer pour l'instant de rester dans la sphère littéraire, mais je pense que c'est le moment vraiment maintenant de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de changer de paradigme, et d'aider non pas à la libération de la parole, mais à la prise en charge des victimes, ce qui est quand même, on est bien au-delà de la simple libération de la parole.
Vous dites qu'avec vos frères, vous êtes très soudés, que vous êtes beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'autres gens dans votre famille. Est-ce que tout le monde a pu lire le livre et l'entendre?
Il n'y a pas beaucoup d'autres gens dans ma famille. Dans la famille Agrandé, oui, mais ce n'est pas eux ma famille. Ma famille, on est petits, en fait. Il y a les gens du côté de mon père, hein, c'est-à-dire mes cousins, mes oncles et tantes, mon père, ma belle-mère. Là, je peux vous dire que j'ai été archi entendue et que même j'ai du mal à en parler tellement ça m'émeut. Et mes cousins, surtout, ils sont super. Franchement, ils sont en soutien de nous énormément, énormément. Et du côté de ma mère, c'est-à-dire des piliers, alors là, c'est pas du tout une découverte. C'est, voilà, c'est mes meilleurs alliés, quoi. D'ailleurs, c'est un peu réducteur de le dire comme ça. C'est plus que des alliés, parce qu'eux aussi, ils sont victimes collatérales de tout ça, voire victimes directes. Et en tout cas, pas d'abus sexuels, mais de violences morales très, très fortes. Et eux, depuis le début, ils sont... franchement, c'est très joli, quoi. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Parce que, encore une fois, moi, je reçois des témoignages où ça ne se passe pas du tout comme ça. Et puis, si je peux dire un dernier mot aussi de cette famille petite, que, et je ne parle même pas de mes enfants, hein, qui sont topissimes, mais non, mais c'est vrai, eux, ils sont ados, ils pourraient voilà, décider que ce n'est pas leur problème, et ce n'est pas du tout comme ça qu'ils prennent les choses. Ils sont vraiment très présents, même si j'essaie de ne pas leur faire porter pour ne pas à nouveau inverser les responsabilités. Non, celui dont je voudrais parler, c'est mon oncle, c'est-à-dire le frère de ma tante et de ma mère, qui, lui, voilà, m'a écrit les plus jolis mots. Je ne les attendais même pas, ces mots-là. C'est-à-dire qu'ils viennent de, je ne sais pas où, du fin fond du bonheur, de l'optimisme, de la réparation. Voilà. Non, ça, c'est... Non, c'est personnel comme question, mais vraiment, je peux y répondre pendant des heures, tellement ils me font du bien, quoi.
Du coup, globalement, ça valait le coup de parler ?
Dans ma sphère personnelle, oui. Ouais, dans ma sphère personnelle, c'est sûr. J'espère que ça va apporter autant de réparation à mon frère qu'à moi. Mais je serais hypocrite si je disais que j'avais écrit ce livre pour mon frère uniquement. C'est pas vrai, je l'ai écrit pour moi, ce livre. Donc, j'ai essayé de le faire d'une certaine manière. Je peux pas dire avec lui, puisque j'ai essayé d'écrire je et pas nous. Mais certainement pas contre lui. Et j'espère, évidemment, au fond de moi, que... ça lui apportera la réparation dont il a besoin. Mais moi, oui, il me fait du bien, ce livre, c'est sûr. Même en tant que mère, en fait. C'est-à-dire que je me sens tellement plus je me sens fière, quoi, d'être la mère de mes enfants, en fait.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous n'osez pas encore dire sur tout ça ? Est-ce que vous sentez qu'il y a des silences qui sont encore coincés ?
Mille Mais c'est sûr qu'il y en a mille, mais je pense que il y a la libération de la parole, et puis il y a ensuite l'étape qui est d'être entendue, puis il y a l'étape d'être comprise, et que je pense que tout livre est d'un coup, non pas que je cache des choses, hein, c'est de l'ordre d'émotions plus que d'événements. Je cache pas d'événements, c'est de l'ordre des émotions. Ces émotions-là, il y a quelques émotions qui sont pas encore passées, mais parce que je les ai pas encore suffisamment exprimées. Mais tout livrer d'un coup, c'est assourdir le message. Et ce serait quand même dommage. J'aime pas cette expression de libération de la parole. Je sais pas comment on pourrait dire, mais le fait de sortir du silence, il faut accepter que ça prenne du temps. Voilà, de la même manière que j'accepte mes contradictions, bah, j'accepte de pas tout dire d'un coup. Parce qu'il faut que j'arrive à résister à cette émotion que ça provoque. Parce que l'idée, c'est quand même de tenir debout. Donc, je le dis surtout pour les gens qui se disent « mais je vais parler, mais je vais mal le dire, je vais pas savoir, je vais pas être entendu. » On peut aussi dire « petit bout par petit bout ». Et c'est peut-être comme ça que ça se fait, et c'est pas grave, quoi. Et puis, il faut aussi accepter que ça veut pas dire qu'on souffre pas. Hein. Libérer la parole, ou sortir du silence, plutôt, ça ne stoppe pas la souffrance. Moi, je pense que ça stoppera ma souffrance, mais au moment où on le fait, c'est un sacré truc. Voilà. Donc, parce qu'il y a quand même là, parfois, des déclarations qui sont faites. Ah, magnifique, libération de la parole, maintenant on peut passer à autre chose. C'est un peu rapide de dire ça, parce que sortir du silence après des années, c'est aussi, ça implique de prendre conscience de ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'au moment où on utilise les mots, lorsqu'on désigne, lorsqu'on qualifie quelque chose, mais ça le rend réel, et ça le rend, en tout cas, dans le cerveau, quoi. Et ça crée un sacré truc. Donc il faut y aller doucement, mais surtout que les gens qui écoutent ne croient pas qu'une fois que c'est fait, c'est guéri, quoi. On n'a plus mal. C'est pas vrai. Ça provoque aussi un nouveau, d'une certaine manière, pas un nouveau trauma, mais une nouvelle mise en danger, quoi. Donc il faut que chacun fasse très attention à soi, quoi.
« La Familia Grande est publiée aux éditions du Seuil et je vous encourage à lire, à l'offrir autour de vous. Je vous invite aussi à écouter Ou peut-être une nuit, le podcast de Louis consacré à l'inceste et à la fabrication du silence. Cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au Club Louis, louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.